Chapitre 21. Les deux principaux dealers au service de George Dunbar, Joe Doug Fitz de Ash Street et Quentin Corkery d'Old Colony, travaillent pour lui au belvédère de Marine Park. Dans la journée, George lui-même ne montre jamais le bout de son nez. Vers le milieu du deuxième jour, après la grosse affluence de midi, avec les ouvriers du bâtiment et quelques chauffeurs poids lourds qui font le trajet Boston-Buffalo, Joe Doug et Quentin ont une conversation urgente avec leur petit revendeur, tous parlant très vite à la base du belvédère. À une vingtaine de mètres d'eux, la vitre de Bess baissée, Mary Pat parvient à saisir quelques mots et bouts de phrases dont les plus importants sont « bientôt à court de Beauties et de Pepsi ». Et elle présume que cela signifie qu'ils vont manquer d'enfêtes et de coke. « Mon Dieu, » pense-t-elle, « j'espère que vous êtes encore bien fournis en héroïne, mes petits chéris. » Quentin Corkery quitte le perchoir. Il descend la pente de Marine Park et saute dans une Datsun Z jaune garée près de la statue. Il s'arrache du bord du trottoir dans un long hurlement de pneus. Mary Pat le suit dans Day Boulevard, où, moins de 3 kilomètres plus loin, il s'engage dans Old Colony. Les deux ensembles de logements sociaux de cette partie de Southie, Old Colony et Old Harbor, sont des cités jumelles de Commonwealth. Les trois ont été construites à moins de 10 ans d'écart, toutes sur le même plan. Mary Pat reste à distance, avançant au ralenti dans la rue étroite que Quentin a empruntée en direction d'un parking situé à l'arrière. Il s'arrête juste devant un petit Porsche noir, bondit hors de sa voiture et s'engouffre dans l'immeuble. À une époque, Mary Pat est sortie avec un type qui habitait là, Paul Bailey. Aux dernières nouvelles, il purgeait une peine de 8 à 10 ans à la prison de Walpole. Et elle se souvient que la disposition des lieux est identique à celle de Commonwealth. Long couloir traversant au milieu, avec les portes de tous les logements qui donnent sur cette artère principale. Elle ne parvient pas à être en position à temps pour voir dans quel appartement Quentin entre. Mais elle est postée sur le petit porche avec une vue dégagée à travers la vitre de la porte jaune et quand il réapparaît, elle constate qu'il sort du 4e logement sur la gauche. Elle pose ses fesses sur le haut de la rambarde, fait pivoter son corps, se laisse tomber et elle est déjà aplatie contre le mur au moment où Quentin quitte l'immeuble, saute au volant de sa Datsun et repart, laissant une fois encore suffisamment de gomme sur l'asphalte pour que Mary Pat se demande si ce n'est pas juste pour pouvoir se payer de nouveaux pneus qu'il vend de la drogue. Mary Pat retourne jusqu'à Bess, qui l'attend dans un coin du parking où elle l'a garé. Elle ouvre le coffre et fouille dans le sac de Dukie jusqu'à ce qu'elle ait trouvé ce dont elle pense avoir besoin. Puis, elle referme le coffre. Elle enfile des gants avant d'atteindre la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, elle remarque que le couloir a une odeur légèrement différente de ceux de Commonwealth. Ça sent toujours le Lysol, les éclaboussures de bière, les pommes de terre, le chou et le cornet de bœuf bouilli tous les dimanches dans au moins un quart des appartements. Mais il y a quelque chose d'autre. Un léger relent de moisissure, peut-être. La senteur d'un trottoir humide en avril ou d'une piscine voisine, mais il n'y a pas de piscine dans le coin, ça, c'est sûr. La 4e porte sur la gauche est le numéro 209. Elle frappe et attend, l'oreille collée contre le battant. Elle n'entend rien. Elle frappe une seconde fois pour être sûre. Elle a le poinçon repoussoir plaqué sous son chemisier, contre le bas de sa colonne vertébrale, au cas où. Mais le rossignol de Dukie entre dans la serrure comme si c'était une clé. Cela lui prend moins de 30 secondes et elle est à l'intérieur. Ça sent le joint, la fumée de cigarette et une hygiène douteuse. Dans la chambre du fond, elle trouve un vieux matelas sans drap avec un seul oreiller taché de transpiration. Dans la salle de séjour, il y a un canapé déchiré, plusieurs chaises de plage en plastique et une télé en noir et blanc posée sur une pile de 5 annuaires des pages jaunes, dont 4 sont toujours sous film plastique. La salle de bain a l'air de n'avoir jamais été nettoyée. Il est possible que l'odeur de moisi qu'elle a sentie dans le couloir vienne exclusivement de cette seule salle de bain. car le mur derrière le lavabo est noir et des langues de moisissures cotonneuses grisâtres montent sur le carrelage dans le coin de la baignoire. Elle inspecte la chasse d'eau, mais il n'y a rien de caché là. Elle inspecte sous le lavabo, pareil. La chambre ne donne rien, l'évier dans la cuisine non plus. Mais à la cinquième tentative, elle se sert d'un balai pour soulever le faux plafond du placard dans l'entrée. Des sacs Ziploc tombent sur l'étagère du haut, tandis que d'autres s'éparpillent sur le sol. Elle prend une chaise, grimpe dessus et passe la main pour ramasser tous les sacs restants. Une fois qu'elle les a tous ramenés, elle sent autre chose là-haut, juste le bord d'un objet, quelque chose de dur. Elle se hisse et s'étire, tend les doigts, et elle sait que c'est un revolver à l'instant où elle empoigne la crosse. Elle sort un calibre 38 Smith & Wesson à canon court, avec une crosse pleine d'éraflures et dont le caoutchouc commence à s'effriter. Elle descend de la chaise et ouvre le barillet. Il s'ouvre facilement. Au moins, l'arme est graissée et peut-être même correctement entretenue. 6 balles sont logées dedans. Elle grimpe de nouveau sur la chaise, passe la main une dernière fois dans le faux plafond et en retire une petite boîte en carton avec quelque chose à l'intérieur qui fait du bruit. Elle l'ouvre et y trouve 6 autres balles. Elle place tous les sachets sur la table de la kitchenette, dont le plateau en formica poisseux est encore plus abîmé que celui de sa cuisine. Les sacs Ziploc, très grand format, contiennent de l'herbe. Dans certains, elle est verte et elle a une odeur âcre. Dans d'autres, elle est moins verte et friable, parsemée de tiges. Les sacs grand format contiennent une poudre brune qu'elle reconnaît immédiatement, avec un coup au cœur. Ou une poudre blanche, qu'elle suppose être de la cocaïne. Elle repère tout de suite un sac de Black Beauties. Duki était friand de ces amphétamines. Et elle devine que les autres comprimés sont, respectivement, du Quaalude, du LSD et de la mescaline. Ça ne représente pas une énorme quantité de drogue, pas pour un dealer. Si elle devait deviner, elle dirait qu'ils ont vendu peut-être 2/3 de leur stock à cet instant. Une telle perte ne va pas leur faire grand tort à long terme, mais demain, ça va leur faire mal. Elle emporte le tout. Et le revolver. Quelques heures plus tard, un des petits revendeurs s'amène, entre dans l'appartement, puis en ressort l'air désespéré et fiche le candelas à toute vitesse. Un quart d'heure après, Quentin et Joe Dog débarquent dans la Datsun Z de Quentin. Ils se précipitent à l'intérieur. Ils y restent un peu plus longtemps que le revendeur. Quand ils ressortent, ils ont l'air abattus et effrayés. Il s'assoit sur le capot de la Datsun de Quentin et fume des cigarettes sans rien dire. Environ une demi-heure plus tard, « Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps, George ?» George Dunbar arrive. George conduit une Impala beige de la fin des années 1960. Une voiture remarquablement quelconque. George est manifestement le seul membre de sa bande à avoir une petite idée des avantages qu'il y a à ne pas attirer l'attention quand on s'adonne à des activités criminelles de façon régulière. George et ses deux dealers se mettent à pointer des doigts accusateurs. George désignant Quentin et Joe Dog. Quentin et Joe Dog se désignant réciproquement. George se rue dans l'appartement. Les deux autres le suivent. Pendant qu'ils sont à l'intérieur, Mary Pat démarre Bess. Une fois que Bess tourne au ralenti, tout va bien. Mais au démarrage, ce n'est pas joli joli. Le pot d'échappement crache des bouffées de fumée qui s'élèvent dans le rétroviseur et le moteur s'éclaircit la gorge une demi-douzaine de fois avant de se calmer. Quand ils vont ressortir, elle en est pratiquement sûre, ils vont quitter les lieux. Il vaut mieux que Bess soit fin prête à partir aussi. Elle entend la porte s'ouvrir et claquer contre le mur quand ils apparaissent. Ils s'arrêtent devant la Datsun, où George lâche une dernière engueulade, suivie d'un doigt furieux pointé d'abord vers Quentin et ensuite vers Joe Dog. Il saute dans son Impala et s'arrache de là. Quentin et Joe Dog restent sur place plus longtemps que ne l'avait espéré Mary Pat. Quand ils baissent les yeux pour allumer leur cigarette, elle joue le tout pour le tout et commence à rouler, longeant l'arrière du parking, le regard fixé droit devant elle. S'il la remarque, il ne semble pas y accorder une attention particulière. Elle retrouve George Dunbar garé 3 rues plus loin, en train de téléphoner dans une cabine publique, devant un magasin de vins et spiritueux. Ses lèvres ne bougent pas beaucoup. Il hoche surtout la tête, énormément. Et il a les yeux écarquillés. Mary Pat se dit qu'il y a fort à parier qu'il a droit à sa propre engueulade. Il raccroche comme si le combiné risquait de le mordre. Il remonte dans son Impala, repart, et Mary Pat lui file le train, laissant 3 voitures entre elle et lui. Rapidement, il s'engage sur la voie rapide sud-est, et quelques kilomètres seulement plus loin, il sort et l'emmène longer le quartier de Dorchester, puis il franchit le pont au-dessus du fleuve Neponset. De là, il la conduit dans Squantum, une pointe de terre qui saille de la main de North Quincy comme un pouce victime d'un accident industriel. À l'exception de la base de ce pouce, Squantum est complètement entouré par l'océan et Mary Pat suit l'impala anonyme de George jusqu'à une maison dans Bayside Road, au nord d'Orchard Beach. C'est une petite maison de style Cape Cod, avec un toit en shingle brun foncé et des contours de fenêtres blancs, un petit jardin et une superbe vue sur le port, juste de l'autre côté de la rue. George se gare devant la maison, et avant même qu'il soit descendu de voiture, elle est là. Sa mère. Lorraine Dunbar en personne. Ce n'est pas une beauté, pour dire la vérité. Un visage mince, avec quelque chose de rapace, sous une abondante chevelure d'un roux vif, des yeux trop rapprochés, un menton si brutalement carré qu'on dirait que c'est ce qui est resté après une amputation. Mais elle a toujours le corps d'une pom-pom girl de 16 ans. Des jambes fermes, un cul qui vous donne l'impression que vous pourriez jouer de la conga dessus, et des nichons qui défient tout à la fois la gravité, la logique et le temps. À tous ceux qui veulent l'entendre, Lorraine affirme que c'est grâce à son régime, viande maigre et légumes, fanfaronne-t-elle, et rien de sucré, et son jogging. Comment elle en est arrivée au jogging? Personne n'en sait fichtre rien. Mais Mary Pat l'a vu des dizaines de fois courir dans Broadway ou dans la boucle du Sugar Bowl, les genoux montant si haut qu'ils touchaient presque son menton, joues gonflées et lèvres pincées, vêtue de ses hauts et de ses pantalons à fermeture éclair, aux couleurs coordonnées avec des passepoils blancs et généralement un bandeau assorti pour compléter le tout. Chaque fois que le sujet est évoqué parmi les femmes de Commonwealth, il s'en trouve une pour émettre l'idée que, pour des nichons et un cul comme ça, elles pourraient peut-être toutes se mettre au jogging aussi. Mais la suggestion ne dure pas plus longtemps que la fumée de la cigarette suivante. Lorraine étreint son fils, puis regarde dans la rue. Lorraine est la maîtresse de Marty Butler. Alors elle a été bien formée à chercher d'éventuelles menaces dans tout ce qui paraît inhabituel. Elle aurait probablement repéré Mary Pat et Bess si Mary Pat n'avait pas fait marche arrière dès qu'elle avait vu George s'arrêter. Elle est garée à l'entrée d'un virage, une 30 mètres plus loin dans la rue, sous un arbre qui projette une ombre bien agréable en cette fin d'après-midi. Pour la voir, il faudrait que Lorraine se plante au milieu de la rue et profite de la bonne lumière. Lorraine et George entrent dans la maison. Mary Pat s'installe confortablement. À un moment, elle tourne la tête et voit Jules assise à côté d'elle sur le siège passager. Jules bâille et lui adresse un sourire fatigué. C'est le hors-bord qui la réveille. Il fait sombre. Des insectes sont massés sous l'unique réverbère. Au bruit d'une moustiquaire qui s'ouvre en grinçant avant de se refermer en claquant, elle tourne la tête et voit George Dunbar sortir de la maison, puis traverser la route en direction de la petite crique. Il est en short et pieds nus. Mary Pat sort les jumelles du sac de Dukey et les braque sur le bateau qui coupe son moteur et, ballotté par les vagues, glisse jusqu'au rivage. Brian Shay saute du canot tandis que George patauge à sa rencontre et tous deux tirent l'embarcation à terre. Brian éteint la lumière sur le bateau et maintenant les jumelles ne servent plus à rien. Mary Pat éteint son plafonnier et sort de Bess. Elle referme doucement la portière et traverse la chaussée. Il n'y a là qu'un seul arbre derrière lequel se cacher et le muret qui longe la plage n'arrive même pas à la hauteur de ses genoux. L'arbre est à au moins 20 mètres de Brian et George. Mais il n'y a personne d'autre dans les parages et pas grand-chose pour étouffer le bruit, si seulement il voulait bien parler un peu plus fort. Elle se poste derrière l'arbre et tend l'oreille. Brian Shay dit à George
« Faut que tu... Merde, on n'a pas... On n'a rien sans rien !»
George tourne le dos à Mary Pat et ses paroles sont emportées par le vent. Il est beaucoup plus difficile à comprendre. Elle croit l'entendre dire « je sais » deux ou trois fois. Et un mot qui pourrait être « laiton ». Mais sans pouvoir dire pourquoi, elle sait que ce n'est pas ça. Elle sait aussi que ce n'est pas « bâton ». Mais ce qui est sûr, c'est que ça finit par « ton ». Une brise soudaine lui apporte les trois phrases les plus claires de Brian Shay.
T'étais déjà en dette. Maintenant, tu l'es encore plus. Personne ne va prendre ça, la plaisanterie.
La brise retombe.
Je... répond George. Déplace. Blue Hill, Ave. J'en ai rien à foutre. Je dis juste des excuses que tu te trouves. Allez.
Ils sortent quelque chose du bateau. Ils portent la chose à deux dans l'obscurité. L'un à environ 1,20 m de l'autre. En traversant la route, ils passent à la limite du halo du lampadaire et Mary Pat voit qu'il s'agit d'un sac marin. Il est vert foncé, semblable à celui que portait Noël quand il est rentré de l'armée. Sauf qu'elle est sûre que celui-ci a une fermeture éclair au milieu. George ouvre le coffre de son Impala et il charge le sac dedans. La voiture n'est qu'à 5 ou 6 mètres de là. Mary Pat les entend bien à présent, tandis que Brian met les mains sur les épaules de George.
« Tu dis à cette bande de singes défoncés de Moreland Street que j'attends un retour maximum sur investissement. »
George hoche la tête. Brian lui donne une tape sur la joue. Pas si légère que ça.
« Tu m'entends ?»«
Oui, oui. » »«
Assure-toi qu'ils ont bien compris que si leur action ne fait pas la une des journaux, on coupe l'approvisionnement de toute leur putain de filière.
Ok.
Et puis tu déménages le reste de la marchandise.
Ouais, ouais.
Pas le mois prochain. Pas l'année prochaine. Maintenant, on est bien d'accord.
D'accord.
T'es pas de la famille, mon petit gars.
Brian s'approche et fait comme s'il allait donner une autre gifle à George. Mais au dernier moment, il lui tapote la joue.
T'es juste le fils de la nana qui baise avec mon boss.
« Je sais.
Tu quoi ?»
dit Brian d'une voix brusque.
« J'ai dit « je sais, je sais. »
Brian Shay le fixe du regard un instant avant de retraverser la route. Il tire son bateau dans l'eau avec quelques éclaboussures et quelques grognements, puis il démarre le hors-bord et file. Une heure plus tard, quand George quitte la voie rapide, Mary Pat se dit qu'il a dû se tromper. Au lieu de tourner à droite en direction de Southsea, il prend à gauche en direction de Roxbury. Elle imagine qu'il est distrait et qu'il ne va pas tarder à faire demi-tour, mais il s'enfonce dans Roxbury, empruntant des rues où elle n'est jamais venue auparavant, dans des secteurs de la ville qui lui semblent aussi étrangers que Paris. Mais Paris se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Ses rues se trouvent à moins de 10 kilomètres de Commonwealth.
C'est dimanche. Et il est minuit. Pourtant, certaines rues sont aussi animées que pour une fête de quartier.
Des gens de couleur se réunissent sur leurs porches ou sont rassemblés sur le trottoir autour de leurs voitures. D'autres rues sont aussi tranquilles qu'un cimetière, sans même un miaulement de chat de gouttière pour rompre le silence. Elle a l'impression que, partout, des yeux sont braqués sur elle. Elle se demande si quelqu'un ne va pas bondir devant sa voiture en hurlant
« Une femme blanche !»
avant qu'ils ne lui tombent tous dessus et la mettent en pièces. C'est bien le genre de truc qu'ils font dans le coin, non? À l'affût de la blanche qui ne se méfie pas. D'une blanche paumée, d'une bonne poire de sale blanche. Et ils vont lui montrer qui sont vraiment les maîtres dans ces rues et à quel point ils ont la rage. Elle n'a aucune idée de la raison pour laquelle ils la haïssent tant. Mais elle sent leur haine dans les regards qu'elle ne veut pas croiser, les regards qu'elle ne voit pas véritablement, mais elle sait qu'ils sont là, ces regards lancés dessous des paupières lourdes et menaçantes et auxquels n'échappe aucun de ses gestes.
Regarde autour de toi, lui glisse une voix comme un défi. Elle accepte de le relever. Un coup d'œil vers les porches et les vérandas. Personne ne l'observe. Personne n'est même au courant de sa présence. Et il n'observe pas George non plus parce que George n'est plus là. Il y a la lueur jaune d'une intersection, une rue plus loin, mais la voiture de George n'y est pas. Elle accélère, la crainte envahissant soudain sa poitrine avec un fracas de cymbales. Elle ignore totalement comment sortir de là. Elle atteint l'intersection, lève les yeux vers les plaques des rues sur sa gauche. Elle se trouve dans Warren Street, au croisement avec St. James Street. Impossible de savoir si George a tourné à droite ou à gauche. Elle ne voit pas ses feux arrière. Elle lève les yeux de nouveau vers les plaques de rue, cette fois sur la droite, et elle a envie de remercier Jésus, le Saint-Esprit et Saint-Pierre aussi, en voyant que dans un quartier aussi merdique, les plaques des rues sont absolument intactes, parce qu'elle s'aperçoit que Warren Street croise deux rues, St. James Street à gauche et, à sa droite, Morland Street. Tu dis à cette bande de singes défoncés de Morland Street que j'attends un retour maximum sur investissement. Elle tourne à droite dans Morland et accélère. Un carrefour plus loin, pas de George. Deuxième carrefour, toujours pas de George. Résistant à la tentation d'enfoncer l'accélérateur, elle maintient Bess à une vitesse constante. Au panneau de stop suivant, elle regarde à droite et elle aperçoit l'Impala. Elle est garée en face d'un terrain de jeu quelques dizaines de mètres plus loin. Garée près d'un van de couleur blanche, avec la porte arrière gauche ouverte. Trois types noirs se tiennent près du van en compagnie de George. L'un d'eux est grand et gros, un autre est maigrichon et petit, le troisième est de taille et de corpulence moyenne. Tous les trois ont une coiffure afro-volumineuse et le visage barbu. Tous portent des lunettes et un pull à col roulé. George leur remet des objets qu'il sort l'un après l'autre de son coffre. Mary Pat n'est pas experte et sa vision est limitée. Mais elle sait reconnaître un fusil quand elle en voit un. Pourquoi un dealer de Southie est-il en train de donner des fusils à trois types noirs de Roxbury à la veille de la mise en application forcée de cette histoire de buzzing? Mary Pat appuie la tête en arrière contre son siège. Putain, qu'est-ce qu'ils peuvent bien mijoter?